Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde aujourd'hui, édition du 24 décembre 2020. Bonjour, bienvenue. La peur s'est emparée hier des rues de Bangui, la capitale de la République centrafricaine, où les commerces ont baissé le rideau et la population s'est calfeutrée. L'ambassade des États-Unis à Bangui a fait état de violence et d'une atmosphère de panique dans la capitale. Les casques bleus et les forces centrafricaines ont repris mercredi Bambari, la quatrième ville du pays, tombée la veille entre les mains d'un des groupes rebelles ayant lancé des offensives considérées comme des tentatives de déstabilisation à 5 jours des élections présidentielles et législatives dans ce pays d'Afrique centrale. RDC, le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC, Albert Yuma, un proche de l'ex-chef de l'État, Joseph Kabila, a été écarté mercredi. Nouvel épisode d'une élection interne controversée sur fond de crise politique en République démocratique du Congo. Une source de la FEC estime que la mise à l'écart de M. Yuma est politique dans le contexte actuel. Le 6 décembre, le président Tshisekedi a mis fin à la coalition au pouvoir qu'il formait avec la majorité parlementaire fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila. Dans la foulée, le président Tshisekedi a demandé un changement de majorité parlementaire pour mettre en œuvre sa politique de réforme soutenue par l'Union européenne et les États-Unis. Des hommes armés ont tué plus de 100 personnes dans une attaque mercredi dans l'ouest de l'Éthiopie, a indiqué la Commission éthiopienne des droits de l'homme. La commission a indiqué avoir reçu de la part des rescapés des preuves photographiques inquiétantes de cette attaque perpétrée avant l'aube sur des habitants en train de dormir dans la zone de Metekel et qui s'est poursuivie jusqu'à mercredi après-midi. Le Soudan et l'Éthiopie ont achevé hier à Khartoum un cycle de discussions sur le tracé de leurs frontières communes sans qu'aucune décision ne soit annoncée. Les deux parties ont convenu de soumettre des rapports à leurs dirigeants respectifs et que la prochaine rencontre se tiendrait à Addis Abeba à une date qui sera déterminée ultérieurement, est-il indiqué dans le communiqué commun. Le point le plus chaud est la région d'El Fachaga dans l'état de Guédaref, où 250 km² de terres agricoles sont convoitées par les agriculteurs de l'Éthiopie et du Soudan. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a réitéré dans un message adressé au président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, son engagement permanent pour la défense des droits légitimes du peuple palestinien, a indiqué mercredi le Palais Royal dans un communiqué. Le monarque marocain a réaffirmé son attachement aux négociations entre les parties palestiniennes et israéliennes comme seul moyen de parvenir à un règlement définitif après avoir réitéré mardi la position constante du Maroc basée sur une solution à deux États. Ce message a été envoyé au lendemain de la première visite officielle d'une délégation américano-israélienne au Maroc, où plusieurs accords de coopération ont été paraffés par des responsables des deux pays. Brexit, après 10 mois de négociations harassantes, l'Union européenne et le Royaume-Uni espèrent annoncer aujourd'hui un accord historique sur leurs futures relations commerciales. Une telle percée leur permettrait d'éviter in extremis un no deal dévastateur pour leurs économies en fin d'année. Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a accordé mercredi une nouvelle salve de grâce présidentielle controversée qui ont provoqué l'indignation jusque dans son propre camp. Il s'agit pour la plupart de personnalités mises en cause dans l'enquête russe, dont le père de son gendre et conseiller Jared Kushner. M. Trump a gracié mercredi 26 personnes et 3 autres personnes ont vu leur condamnation être commuée en partie ou intégralement. L'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe pourrait être sommé de s'expliquer devant les parlementaires sur de possibles violations de la législation sur le financement politique au Japon. Shinzo Abe, qui a démissionné en septembre en invoquant des raisons de santé, est accusé d'avoir financé via des services, des dîners pour ses partisans en violation des lois sur le financement politique. VOA Afrique Info, nous sommes le jeudi 24 décembre 2020. En ligne de mire dans ce journal, en Côte d'Ivoire, le FPI, le parti de Laurent Gbagbo, de retour dans les joutes électorales dans son pays avec sa participation aux prochaines législatives. Le Congo-Brazzaville sur la voie des élections prévues en mars 2021 avec sur le chemin l'équation de la gestion de la pandémie de coronavirus. Et puis, Afrique du Sud, une variante du COVID-19 plus transmissible fait rage dans le pays. Jean-Roger Billon, nous émettons de Washington dans un instant la suite de ce journal.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique. La suite de nos informations en ce jeudi 24 décembre, en Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo annonce sa participation aux élections législatives prévues au premier trimestre 2021. Le FPI boycottait ces élections depuis 10 ans et son retour rebat les cartes du jeu politique dans le pays. Bagassi Koura.
Après une si longue absence, le poids électoral du FPI est difficile à mesurer. Au pouvoir sous la présidence Gbagbo de 2000 à 2010, le Front populaire ivoirien est toujours considéré comme l'un des trois grands partis du pays et il affiche son intention de revenir en force. Le FPI participera aux élections législatives et se donnera en concertation avec ses partenaires de la coalition des plateformes de l'opposition ivoirienne, notamment avec le PDCI, les moyens de les gagner, a déclaré le parti dans un communiqué publié à l'issue d'une réunion de son comité central mardi. Ce revirement du FPI s'explique par le retour annoncé de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Le parti boycottait des élections depuis l'arrestation de son chef et son transfert à la Cour pénale internationale de La Haye. Le FPI est divisé depuis plusieurs années en deux tendances rivales. L'une fidèle à Laurent Gbagbo, l'autre dirigée par son ancien premier ministre Pascal Affine-Guessan, qui a toutefois laissé entendre qu'il se rangerait sous la bannière de Gbagbo à son retour. M. Gbagbo, qui vit à Bruxelles en liberté conditionnelle, avait dit souhaiter revenir au cours du mois de décembre, mais la date effective de son retour reste inconnue. Des négociations avec le pouvoir ivoirien étant toujours en cours pour régler les modalités.
Le président congolais Denis Sassou Nguesso souhaite des élections dans la transparence et dans la paix d'ici au 21 mars dans son pays, qu'il veut par ailleurs engager sur la voie du vaccin contre le COVID-19. Les précisions de John Lindon.
La prochaine élection présidentielle devrait avoir lieu au plus tard le 21 mars 2021, a déclaré hier M. Sassou Nguesso dans un message à la nation devant le Parlement réuni en congrès. Nous devons aller aux prochaines élections dans la transparence et la paix en respectant les délais constitutionnels en vigueur. Monsieur Sassou Nguesso, 77 ans, dont 36 ans au total, à la tête du pays, n'a fait aucune allusion à sa propre candidature. Il a été investi candidat il y a tout juste un an par le congrès de sa formation politique, le PCT, le Parti congolais du travail. Il a en outre été désigné tout récemment par les 17 formations de sa majorité. Nos difficultés de l'heure ne peuvent pas nous amener à emprunter des chemins hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité, a-t-il insisté. Parlant du COVID-19, Denis Sassou Nguesso salue l'arrivée du vaccin anti-COVID et demande une action capable d'en faire bénéficier le Congo. Le gouvernement congolais, qui a d'ailleurs décidé de reconfiner toute la population pendant les jours de Noël et du Nouvel An.
La nouvelle variante du coronavirus détectée en Afrique du Sud semble se transmettre plus rapidement que les souches les plus anciennes, selon les chercheurs qui l'ont identifiée, ce qui pourrait expliquer la soudaineté de la deuxième vague dans le pays. Abdourahman Dia.
Tullio de Oliveira, directeur de l'Institut de recherche CRISP, adossé à l'Université du KwaZulu-Natal, assure que tous les éléments montrent que cette variante est davantage transmissible. Son équipe a séquencé des centaines d'échantillons de tout le pays depuis février. Ils ont remarqué qu'une variante particulière domine les résultats de ces deux derniers mois, avait expliqué le gouvernement lundi en annonçant l'identification de cette nouvelle variante, similaire à une autre variante britannique. En gros, 80 à 90% des échantillons prélevés à partir de la deuxième moitié de novembre présentaient cette variante, détaille Tullio de Oliveira. Il indique que cette nouvelle variante, baptisée 501.V2, a probablement émergé dans la région de Nelson Mandela Bay, autour de Port Elizabeth, dans le sud-est. Puis, elle s'est étendue vers le Cap, région la plus touristique du pays, vers l'ouest, mais aussi vers le nord, en direction de Durban. Mercredi, Londres a annoncé avoir identifié deux cas de cette variante plus contagieuse au Royaume-Uni, annonçant la mise en place immédiate de restrictions de voyage. L'Afrique du Sud, pays africain de loin le plus touché par le coronavirus, a enregistré en décembre jusqu'à plus de 10 000 nouveaux cas en 24 heures.
C'est C'est maintenant l'heure de la Minute Éco avec Michel Joseph.
Les États-Unis ont redonné mardi le statut commercial préférentiel à la République démocratique du Congo, 10 ans après le lui avoir retiré. Kinshasa a de nouveau la possibilité d'envoyer sur le marché américain des exportations sans taxes douanières en raison des mesures prises par le gouvernement de la RDC. L'ancien président américain Barack Obama avait retiré ce privilège à la RDC en décembre 2010, invoquant des violations des droits humains par les forces de sécurité congolaises, dont le recours au viol comme arme de guerre. Mais Washington a affiché son optimisme depuis l'élection du président Félix Tshisekedi, qui s'est engagé à lutter contre la corruption. L'Égypte déploie des efforts pour augmenter son stock de vaccins contre le Covid-19, a annoncé la ministre égyptienne de la Santé, Hala Zayed. Le Caire a signé un contrat pour acquérir le vaccin développé par le groupe pharmaceutique chinois Sinopharm après avoir reçu une première livraison en début de mois. Les travailleurs de la santé et les personnes souffrant de maladies chroniques seront prioritaires pour la vaccination, a précisé la ministre Hala Zayed.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Le deuxième tour aller des préliminaires de la Ligue des champions CAF s'est achevé hier. La grosse surprise du jour est venue du Soudan où El Merrek s'est imposé à domicile 3-0 face à Enyimba du Nigeria. Défaite également 0-1 de l'autre club nigérien, l'AS Sonidep, qui recevait le champion en titre Al Ahly d'Égypte. 1-1 entre Nkana de la Zambie et le Petro Atlético de Luanda. 1-0 pour le Platinum du Zimbabwe qui recevait Simba de la Tanzanie. Le tout-puissant Mazembe est allé s'imposer 2-1 au Gabon devant Bouenguidi. 1-1 entre le Racing Club d'Abidjan et le Oroya de Guinée dans le duel ouest-africain. En Coupe CAF, les Congolais du Daring Club Motoma Pembe ont arraché une courte victoire précieuse, 1-0 dans les arrêts de jeu en Angola face à 11 Bravos. Les Camerounais du Coton Sport de Garoua sont allés s'imposer 2-0 en Zambie devant Green Eagles, 2-0 aussi pour les Rwandais de l'AS Kigali qui recevaient Kampala City de l'Ouganda, 2-0 pour les Tanzaniens de Namungo face à Al Hilal Obeid du Soudan. Même score en faveur de Monastir de la Tunisie devant Al Hilal de Tripoli. Jaraf du Sénégal est tombé à domicile 0-1 face à San Pedro de Côte d'Ivoire. Record pour Lionel Messi avec son but marqué lors de la 15e journée de Liga contre Valladolid. Lionel Messi a dépassé Pelé pour devenir seul recordman du nombre de buts marqués dans un seul et même club avec 644 buts au FC Barcelone. Lionel Messi avait égalé le roi Pelé après avoir marqué samedi pour le nul 2-2 contre Valence. Mais l'Argentin a dépassé le Brésilien avec ce nouveau but à Valladolid. Messi, 33 ans, a marqué 644 buts en 749 matchs officiels avec le Barça selon le club, tandis que le Brésilien a marqué 643 buts en 757 rencontres avec le Santos FC. Et pour finir, la légende du football Diego Maradona, mort le 25 novembre à 60 ans, souffrait de troubles rénaux, cardiovasculaires et hépatiques, mais n'a pas récemment consommé d'alcool ou des stupéfiants, selon une expertise. Cette analyse complémentaire à l'autopsie a été menée par le parqueur de San Isidro pour s'assurer qu'aucune négligence ou imprudence n'a été commise dans les soins apportés à l'idole argentine de Naples, alors que son chirurgien est visé par une enquête pour homicide involontaire. Le document publié par le parquet précise que Maradona souffrait d'une cirrhose, d'une insuffisance et de problèmes rénaux, ainsi que de nombreux troubles cardiaques et artériels. Aucune trace d'alcool ou de stupéfiants n'a été décelée dans le sang ou l'urine du vainqueur de la Coupe du Monde 1986. Les analyses toxicologiques ont en revanche révélé la présence dans son organisme de plusieurs traces de médicaments, dont un antidépresseur.
Abdourahmane Dia avec vous dans Washington Forum. L'année qui se termine a été riche en événements ici aux États-Unis. Cette semaine, nous passerons en revue les grands moments de l'actualité américaine. De la pandémie de Covid-19 à la présidentielle du 3 novembre, en passant par les relations entre Washington et ses partenaires européens, ainsi que la poussée diplomatique de l'administration Trump au Moyen-Orient. Rendez-vous ce jeudi 24 décembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOAAfrique.com.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon, toujours en votre compagnie. À présent, le dossier du jour. Au Niger, le premier tour de l'élection présidentielle se tiendra dimanche prochain. 30 candidats sont en lice à quelques jours de ce scrutin. Notre correspondant à Niamey a interrogé les citoyens nigériens sur leurs attentes concernant ces élections et leur futur président de la République. On les écoute.
Ce que nous attendons du futur président, nous demandons tout simplement à ce qu'on réamène la justice au Niger. Car sans justice, rien de bon ne peut se construire. C'est la première des choses. En second lieu, qu'on amène l'intégrité, le patriotisme, car l'amour de la patrie nous amènera à relever beaucoup de défis. Sur le plan sécuritaire, nous demandons à ce que tous ceux qui ont de près ou de loin ont participé dans l'affaire de MDN Gate, que ces gens soient traduits devant la justice. Parce que jamais le Niger n'a connu un nombre très élevé de militaires assassinés qu'avec ce régime. Donc le futur régime, nous attendons justice sur le plan sécuritaire. Car si nous n'arrivons pas à remettre l'armée dans ses droits, parce que tout simplement certaines personnes ont donné des marchés publics à des commerçants qui ne s'y connaissent rien dans l'achat des armes, jusqu'à acheter des armes qui ne fonctionnent pas, qui a conduit la mort de soldats. Je pense que c'est la seule chose qu'on peut demander sur le plan sécuritaire. Parce que si on arrive à rehausser le moral de nos troupes, ils gagneront.
Nos attentes par rapport à ces élections, c'est qu'il y ait des élections apaisées, qu'il y ait des élections aussi libres et transparentes, que celui que Dieu a décidé de qu'il soit notre président de la République, que la population puisse le soutenir jusqu'à ce qu'il finisse au moins ses mandats.
Moi, en tant que Nigérienne, mon vœu le plus cher est que les élections se passent dans le calme et la tranquillité. Et ça doit interpeller aussi tout Nigérien à cultiver l'esprit de la paix. Car sans la paix, on ne peut pas parler d'élections.
Et en tant que jeune, à cette veille des élections, on attend une élection présidentielle libre et transparente, apaisée, et une sérénité entre les jeunes.
Nos attentes par rapport à cette élection, c'est que nous voulons des élections apaisées, transparentes, vraiment libres, et que les élections soient vraiment le choix du peuple, et que ce choix soit respecté. Il faut que vraiment la CENI fasse son travail. Il faut qu'elle soit impartiale. Il faut vraiment donner les vrais chiffres, les vrais résultats, parce que les élections passées, il y a eu tellement de zizanie, de tiraillements. Donc cette fois-ci, nous voulons vraiment des résultats clairs, précis et vraiment nets.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, l'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Tobi-Irié, sillonne le pays depuis qu'il a quitté ses fonctions de préfet cette année. Président de l'ONG Aube Nouvelle, il prône la réconciliation auprès de populations meurtries par les violences électorales. L'ancien préfet d'Abidjan dit croire fermement à la cohabitation entre communautés. Joint à Abidjan par Bagassi Koura, il commence d'abord par évoquer ses voyages à l'intérieur du pays.
Nous avons reçu un accueil favorable de toutes les populations, de toutes les communautés qui ont connu ou subi des violences ces derniers mois. Nous avons eu le privilège de parler à chacune de ces communautés, dans chacune des villes où nous sommes allés. Mais nous avons trouvé sur place un paysage désolant. Quand je dis paysage, je parle de l'état d'esprit, mais également du paysage physique, où des maisons ont été saccagées, incendiées, des commerces totalement calcinés, des communautés divisées, des groupes qui se regardent en chien de faïence. Et vraiment, la situation, en tout cas dans ces localités que nous avons visitées, appelle à des actions urgentes, pour le retour de la paix, le retour de la cohabitation et que le développement local se poursuive.
Alors, en cette veille de Noël et aussi de fête de fin d'année, quel message vous avez pour les Ivoiriens?
Quel message de ce qu'on appelle la paix, comme nous le faisons depuis plusieurs mois. Il y a eu des événements politiques qui sont arrivés. Ce ne sont pas les événements politiques de la Côte d'Ivoire. Les événements politiques de la Côte d'Ivoire, toujours. Nous avons choisi une forme de vie politique qui s'appelle la démocratie, qui appelle certaines situations particulières, notamment les consultations électorales, également d'autres mécanismes. Ils vont nous mettre toujours au plus les uns des autres. Il faut arriver à nous surpasser. Et nous ne serons pas dans l'exclusion de la communauté les unes à l'égard des autres. Je parle de toute la communauté qui apporte une contribution à terre. Il faut que nous apprenions à rester toujours ensemble pour que le développement soit possible. Donc, c'est le message de père avec les autres. C'est également le message de Noël, de l'enfant qui vient, qui nous permet de revivre, d'avoir une nouvelle, un nouveau départ, une nouvelle enfance, une innocence, faire moins de conflits. Afin d'être un pays en exemple, soutien en exemple. Et donc, c'est important que les Ivoiriens ne tombent pas de violence trop souvent inutile.
Alors, récemment, on a créé un nouveau ministère, le ministère de la Réconciliation Nationale. On voudrait savoir qu'est-ce que vous en pensez.
C'est une très bonne initiative. Ça veut dire que les autorités, la population et tout le monde a compris l'importance d'avoir, de se pencher sur la question de la réconciliation, ne doit pas être prise pour acquise. Nous avons déjà eu des initiatives de réconciliation qui ont cours ici par des différentes institutions. Mais à la lumière des événements que nous avons vécu, nous nous rendons compte qu'il y a encore des efforts à faire pour consolider cette réconciliation. Donc, avoir un ministère de la réconciliation qui est créé à une éducation spéciale, de la présence de la République, c'est une très bonne initiative. Maintenant, il faut meubler ce chantier-là. Il faut faire grandir la réconciliation, il faut la bâtir, il faut la rendre logique dans le fonctionnement.
L'ancien préfet d'Abidjan, Vincent Toby Irié, joint à Abidjan par Bagassi Koura.
Restez branchés sur VOA Afrique à Abidjan sur 99.0 FM en Côte d'Ivoire.
En République centrafricaine, la situation sécuritaire reste tendue. De nouveaux combats ont secoué ce mercredi plusieurs localités proches de la capitale. À Bangui même, des rumeurs d'infiltration d'hommes armés avaient créé une panique généralisée, paralysant les activités. Les autorités rassurent et appellent au calme. À Bangui pour VOA Afrique, Freeman Sipila.
Ce mercredi dans la matinée, les combats ont été d'une extrême violence à l'entrée de la ville de Boali, située à 95 km dans le nord-ouest de Bangui. Après des heures de tirs à l'arme lourde et légère, un calme précaire a régné toute la journée et la ville est toujours contrôlée par l'armée centrafricaine et ses alliés russes et rwandais. Alors que les affrontements se poursuivaient, des rumeurs d'infiltration des combattants rebelles dans la capitale ont paniqué toute la ville. Les habitants couraient dans tous les sens. Marie-Noël Koyara, ministre de la Défense, appelle au calme.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que ce matin, il y a un véhicule de la Croix-Rouge qui revenait de Boali et ce véhicule a fait un accident. Et pour sauver les blessés et les vies, les gens étaient obligés de faire recours à des taxis-motos pour transporter les blessés vers les centres hospitaliers. Ces taxis-motos, il y en a qui ont fait circuler les rumeurs comme quoi il y a les agresseurs, les ennemis de la paix qui sont à la porte de Bangui. Et quelqu'un s'est permis de tirer un coup de feu en l'air. Donc en ville, dans tous les quartiers, c'est la débandade, alors qu'il n'y a rien. Le gouvernement s'attelle actuellement à mettre en place les dispositions nécessaires pour ramener la paix et pour que nous puissions aller aux élections le 27 décembre.
Contrairement à certaines informations qui circulent faisant état de la reprise de la ville de Bambari par les casques bleus de la MINUSCA, des sources locales jeunes par VOA Afrique en début de soirée ont indiqué le contraire.
Oui, ils sont présentement là, ils sont là, ils appellent même les gens sortis pour battre leur occupation. C'est un groupe armé qui appelle les gens sortir, de ne pas avoir peur et tout, de vaguer leurs occupations. Les gens sont encore méfiants. On ne sait pas ce qui peut se produire. dans les heures qui suivent. Donc, c'est pas longtemps.
Face à cette montée de violence, l'archevêque de Bangui, le cardinal Dieudonné Zapalainga, appelle au dialogue et à la cessation des hostilités.
Jamais la violence n'a apporté une solution. Jamais la guerre n'a pu résoudre des problèmes. Il est temps pour nous de nous retenir. Voilà pourquoi je lance cet appel à la retenue. Je lance cet appel au calme. Je lance cet appel à la prise de responsabilité. Car demain, des hommes, des femmes, des enfants qui vont mourir, Dieu pourra vous demander des comptes. Qu'avez-vous fait de votre frère? Son sang a coulé. Il est maintenant handicapé à vie. Je voudrais qu'on puisse privilégier, une fois de plus, la voie de dialogue pour chercher une solution à notre problème.
Alors qu'un couvre-feu concernant les taxis-motos est décrété de 20h à 6h du matin, plusieurs candidats à la présidentielle ont annoncé la suspension de leur campagne électorale pour raison d'instabilité sécuritaire. Les centrafricains sont appelés aux urnes ce 27 décembre pour la présidentielle et les législatives. Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Tchad, les militants du parti Les Transformateurs ont tenté de braver la décision des autorités d'interdire une marche pacifique à N'Djamena. La manifestation a été violemment réprimée mercredi par la police. Les Transformateurs affirment avoir enregistré 2 blessés dans leur rang. André Kodbajiga, correspondant de VOA Afrique, fait le point dans la capitale tchadienne.
Le quartier général du président du parti Les Transformateurs, Dr Succès Masra, et quelques espaces vides du dit quartier ont été quadrillés tôt ce mardi par la police anti-émeute. Un dispositif pour empêcher les militants de la dite formation politique d'organiser leur marche pacifique dénommée Marche des leaders pour la justice. Le ministre de la Sécurité publique, Mahamat Tahir Ourouzi, évoque la situation sanitaire actuelle de COVID-19 pour interdire cette manifestation pacifique. Docteur Succès Masra et ses militants qualifient cette décision de 2 poids, 2 mesures. À 15h, heure de N'Djamena, à peine sortir de leur siège, ils ont été violemment dispersés par les éléments de la police. C'était une dépendance totale. Même les journalistes n'ont pas été épargnés de cette bavure. Colère d'un militant du parti Les Transformateurs.
Juste devant la grande porte, là, on nous a lancé des gaz lacrymogènes et on s'est un peu replié à l'intérieur. Nous avons même des blessés et il y a une fille qui est également évanouie. Nous sommes en cercle, ils sont là. Ils sont en train de tirer même sur nous. À ce moment où nous vous parlons, il y a Dédi qui est en train de faire une tournée au niveau de Mao. Il y avait des rassemblements. Il y avait eu au niveau de Assi, il y a rassemblement. Au niveau de Mongo, il y a rassemblement. Au niveau de Bitkin, Amtiman, il y a rassemblement. Donc, comment nous, on peut violer la loi? La loi est pour tout le monde, qui est présent. Ou bien, Corona est seulement pour les transformateurs.
Les habitants aux alentours du quartier général du parti, Les Transformateurs, dénoncent le comportement de la police qui largue les gaz lacrymogènes dans les domiciles.
C'est un homme politique qui veut faire la marche. Mais maintenant, c'est comme si les concessions, toutes les concessions affectées par les gaz lacrymogènes. On jette n'importe où. Parce qu'il y a des organismes qui ne peuvent pas supporter cela. Quelquefois, les enfants aussi sont tombés quelque part. Hein. Et c'est un effet négatif. Et je déplore ce comportement de Gémip. Où il n'y a pas le droit de s'exprimer de manquer. C'est un problème. Je ne sais pas où est en train d'aller ce pays-là.
Pour le porte-parole du parti au pouvoir, Maître Jean-Bernard Padaré, non seulement le président du parti, Les Transformateurs, a bravé l'autorité de l'État, mais il évolue dans l'illégalité.
Monsieur Masra, il faut qu'il arrête. Le président de la République est garant et au-dessus de la loi, au-dessus de la mêlée. Il est président de la République. En cette qualité, il fait un déplacement officiel. Masra et ses amis ont choisi de s'inscrire en marge de la loi. Monsieur Masra, au lieu de régulariser cette situation, choisit de faire un bras de fer avec le gouvernement. Pour moi, le gouvernement est tout à fait dans son droit d'agir, d'interdire une manifestation qui n'en est pas une.
Docteur Succès Masra, qui a été exclu de la course pour la magistrature suprême de 2021, entend maintenir cette pression pour exiger des autorités publiques un dialogue inclusif qui, selon lui, est la seule condition pour l'unité et la cohabitation pacifique. André Kodumadingar N'Djamena pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Le monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À ce micro, Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Joyeux Noël.